Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalungu. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission Espace Femmes de Studio Kalungu qui traite des questions qui concernent les femmes. L'émission Espace Femmes est diffusée à travers le réseau de 52 radios partenaires dans les 8 régions du Niger. Dépravation des mœurs chez les jeunes filles à Tawa, comment y faire face? C'est le thème de l'émission que nous enregistrons ici à Tawa. Selon les données de l'Institut National de la Statistique, au Niger, les jeunes constituent plus de 50% de la population, dont la majorité sont des filles. Cependant, dans nos sociétés, depuis un certain temps, un phénomène se développe chez les jeunes filles, c'est la dépravation des mœurs, consommation des stupéfiants, prostitution pour ne citer que cela. Ce phénomène, dont les conséquences ne sont pas moindres tant sur les jeunes que sur la société, se développe dans la ville de Tawa. Alors comment faire face à ce phénomène? Dans notre émission d'aujourd'hui, nous allons avec nos invités tenter de connaître les causes de ce problème, voir l'impact que cela engendre et propose des pistes de solutions pour y faire face. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Mme Hadiza Maman Idi. Elle est la gestionnaire du centre holistique de prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre au niveau du centre régional de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Nous avons madame Aparché Madania, elle est la présidente de l'ONG Lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants mineurs. Bonsoir.
Bonsoir.
Et madame Rekia Alassane, la chargée du genre au niveau du Conseil national de la jeunesse. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci donc, chers invités, d'avoir honoré l'invitation de Studio Kalungu. Je suis Nafisa Adam Sirfo pour la modération de l'émission. Studio Kalungu. Bonsoir à toutes. Avant d'entamer le débat, nous avons recueilli quelques témoignages sur la dépravation des mœurs des jeunes filles à Tawa. Je vous propose de les écouter. Ils sont vraiment nombreux, les jeunes sans emploi dans notre ville. Et c'est tout normal qu'ils s'adonnent à tout type de délinquance. Nous, en tant que parents, on ne se réjouit pas de la situation. Il n'y a que Dieu qui peut solutionner le problème.
Rien que tout à l'heure, une jeune fille consommant un stupéfiant est passée devant moi. Et elles sont nombreuses dans cette situation. En plus de cela, elle s'adonne à la prostitution. Donc nous interpellons les autorités.
Concernant les filles, elles portent des habits qui ne sont pas décents. Et elles fument. Et aussi, sont très fréquentes dans des endroits qui sont mal vus par la société. Ce qui les pousse à la prostitution, des fois, c'est la situation familiale. Et j'ai eu même à causer la dernière fois avec une d'entre elles. Elle me disait que elle c'est sa belle maman, c'est sa marâtre qui la maltraite. Donc elle ne veut même pas rester à la maison. Et puis elle prend pas soin d'elle. Mais pourtant son papa il est en vie. Mais c'est sa marâtre qui ne la laisse pas tranquille. Elle n'a même pas de savon pour faire sa lessive, ni de quoi en manger. Donc, elle me dit qu'elle est obligée de sortir pour chercher de quoi se nourrir et faire ses besoins.
Alors, vous venez donc d'écouter ces témoignages qui illustrent cette réalité, ce phénomène de dépravation de mœurs des jeunes filles ici à Tawa. Je commence avec vous, Madame Hadiza Maman Idi, la gestionnaire du centre holistique de prise en charge des survivantes des VBG. Alors, quelle est votre réaction et est-ce que vous confirmez cela?
Ok, bonsoir. Je remercie tout d'abord le studio Kalungu qui nous a invités pour cette émission très importante. Mais il faut noter que la déprivation des mœurs ici à Tawa, c'est vrai, ça existe. Et je ne peux pas dire que c'est à Tawa seulement, c'est dans toutes les régions. Mais seulement à Tawa, c'est un phénomène vraiment, un problème crucial qu'il faut lutter par rapport à ça. Et le problème en eux que ça concerne nos jeunes filles, qui sont nos enfants, qui sont nos sœurs. Oui, ce qui est malheureux, c'est la tranche d'âge. À partir de 12 ans, on peut dire que c'est l'âge de la puberté, et que ces jeunes filles s'y mettent à la consommation, si on peut dire, des stupéfiants et puis certains comportements qui sont anormaux, si on peut le dire, face à la société.
Donc, selon vous, comment s'est développé ce phénomène chez les jeunes filles aujourd'hui ici à Tawa?
On peut dire que ce phénomène s'est développé, c'est suite à des causes qui sont là, parce qu'il y a l'éducation en premier lieu, et puis la pauvreté, si on peut le dire.
L'éducation, c'est-à-dire dès la famille ou bien en famille, c'est l'éducation familiale qui a échoué.
C'est l'éducation familiale, je peux dire, qui a échoué. Parce que à l'âge de la puberté, normalement, une fille, elle doit être à la maison, apprendre les tâches ménagères, aider ses parents, même si elle est scolarisée. Mais de nos jours, on voit, même étant scolarisée, en tout cas, elle se donne, comment dirais-je, à être dans la rue, à ne rien faire, et c'est ce qui amène avec l'imitation la consommation de ces espèces.
Vous avez parlé également de la pauvreté qui est l'un des facteurs. En quoi la pauvreté amène ces jeunes filles à s'adonner à ces pratiques mauvaises?
Comme je l'ai dit, avec la pauvreté, il y a si les parents sont pauvres, donc ils n'ont pas les moyens de subvenir aux besoins de la fille. Donc la fille, avec l'imitation avec ses autres pères, elle imite et elle s'adonne à certains comportements qui sont mal vus dans la société.
Mais vous, concrètement aujourd'hui, quel est votre constat sur le terrain?
Bon, je peux dire que le constat, on ne peut pas dire qu'il est amer, mais ça nous interpelle. En tant que parents, comme je l'ai dit, en tant qu'acteurs aussi, ça nous interpelle.
Parce que qui lutte contre et qui protège.
Ça nous interpelle parce que on a des cas qui sont là et qu'on les voit sans, si on peut dire, sans aucune solution. Parce que ce sont nos enfants, comme je l'ai dit, ce sont nos sœurs. Elles sont là, donc l'État doit s'y mettre pour les protéger. Si les parents ont failli, ça revient à l'État de le faire.
Merci bien. Alors, Rekia Al-Hassan, vous êtes la chargée du genre au niveau du Conseil national de la jeunesse. Ce sont donc des jeunes filles qui, certaines, à bas âge, s'adonnent à ces pratiques. Selon vous, quelles sont les raisons qui poussent ces jeunes à s'adonner à ces pratiques mauvaises?
Tout d'abord, je remercie Studio Kalangu de m'avoir invité. Premièrement, ce que je vais dire par rapport à cette question-là. En premier lieu, je peux dire qu'il y a l'absence des parents dans l'éducation de leurs enfants.
Donc vous soutenez ce qu'a dit Mme Hadiza.
On ne peut pas dire que la plupart d'entre elles, ce n'est pas la pauvreté, puisque certaines d'entre elles ont tout ce que
les conditions sont réunies.
Se sont réunies, effectivement. Et ce qui les pousse, certaines d'entre elles, c'est l'ambition, si je peux le dire.
L'ambition.
Tu as vu quelqu'un, ou bien une de tes copines, ou bien de tes amis, a un téléphone, il faut que toi aussi tu détiennes ce téléphone-là. Ou bien les uniformes des mariages, tout ça les pousse à aller dans ce facteur-là.
C'est la recherche donc du gain facile qui amène ces jeunes filles, selon vous, aujourd'hui, à s'adonner à certaines pratiques.
Oui, d'un côté. Avant, l'éducation est pour tout le monde. C'est tout le monde qui éduque l'enfant.
C'est toute la société.
Et maintenant, même dans une famille, tu vas voir que le frère ne peut même pas empêcher l'enfant de son frère à faire quelque chose.
Donc maintenant, les parents même ou bien les membres d'une même famille n'ont pas d'influence sur les enfants.
Sur les enfants, effectivement.
Merci bien, Madame Rakia. Je donne la parole maintenant à Madame Abarchi Madania. Vous êtes la présidente de l'ONG Lutte contre les violences faites aux femmes et aux mineurs et aux enfants mineurs. La dépravation de mœurs est donc une réalité ici de la ville de Tawa. Quelle est votre analyse de la situation?
Par rapport à cette situation qui est vraiment une réalité au niveau de la ville de Tawa, Je dirais qu'il y a des causes qui sont à la base de cette situation.
Quelles sont ces causes?
Entre autres, je peux citer l'influence des réseaux sociaux. Vous avez vu ce que les enfants se partagent sur les téléphones, les chaînes de télévision qui diffusent des émissions qui ne sont vraiment à la portée des petits-enfants. Et pendant ces vacances surtout, où les enfants ne vont pas à l'école, au lieu que les parents les inscrivent dans les macarantas ou dans les cours de vacances, ils les laissent à la merci de la télévision. Et sur ces chaînes de télévision-là, on passe tout ce qui gâte, si je peux dire le mot. L'éducation, il y a l'influence des réseaux sociaux. Après l'influence des réseaux sociaux, je vais revenir ce que celles qui m'ont précédé ont dit. Il y a donc la démission totale, une démission parentale. Pourquoi? Parce que les parents ne surveillent pas l'éducation de leurs enfants. Ils ne surveillent pas l'éducation des enfants. Après la démission parentale, il y a aussi les mauvaises fréquentations.
Quand l'influence des camarades.
L'influence des camarades, c'est ça la mauvaise fréquentation. Tu as une amie, tu sors avec cette amie, tes parents ne connaissent même pas ses parents, ils ne connaissent même pas d'où est-ce qu'elle vient, ils ne connaissent même pas ce qu'elle fait dans la vie, ils laissent leur enfant avec n'importe quelle amie. Donc il y a aussi cette influence, ce qui fait que vraiment la dépravation des mœurs ici à Ottawa prend une ampleur inimaginable.
À travers les témoignages qu'on a recueillis, il ressort que maintenant les jeunes filles s'adonnent beaucoup plus même à la consommation de stupéfiants qui était reconnue pour chez les jeunes garçons, les jeunes hommes. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cela?
Par rapport à la consommation de stupéfiants, notamment les chichas, ou bien comment on appelle ça, les chichas, les solutions, les comprimés. Maintenant, les filles n'ont même pas honte. Elles n'ont même pas honte. C'est à l'œil nu que vous allez voir les filles dans la rue. Consommez-moi, j'ai identifié 3 foyers ici au niveau de Ottawa, là où en plein jour, vous allez constater de vous-même. Il y a d'abord la MJC, derrière la MJC. La MJC, c'est un foyer. Il y a la tribune officielle. Il y a un endroit qu'on appelle la dune. C'est le jour.
En tout cas, même dans les témoignages, la tribune revient toujours dans les propos
la la tribune, de la là, vraiment, c'est aux autorités qu'il faut lancer un appel pour prendre des dispositions pour que cette tribune-là soit libre.
D'accord.
Moi, je me dis que la ville a des polices. La police municipale est là. Elle peut surveiller la tribune. Tout enfant qu'on voit là-bas en train de vadrouiller, en train d'errer, on l'attrape directement et puis on l'amène au commissariat ou on le chasse carrément.
Effectivement.
Je pense que c'est là, il y a aussi les autorités.
Donc il y a les responsabilités sont situées à deux niveaux.
Elles sont partagées.
Elles sont partagées donc au niveau des parents et même l'État.
L'État, la société. Donc la responsabilité à ce niveau est vraiment partagée. On ne peut pas dire que voilà celui qui est responsable de cette situation. Donc c'est tout le monde qui doit contribuer, c'est toutes les parties prenantes qui doivent contribuer à améliorer vraiment l'éducation des enfants.
Alors, Madame Hadiza Maman, vous êtes donc la gestionnaire du centre holistique de prise en charge des survivantes de VBG au niveau du service de la promotion de la femme et de la protection des enfants. Les lieux les plus concernés par ce phénomène où les jeunes filles sont beaucoup plus visibles, on peut citer la tribune. L'État est au courant? Êtes-vous au courant?
Oui. Je peux dire que nous sommes au courant. Ce n'est pas les seuls lieux même. On peut ajouter, il y a un lieu aussi qui est très stratégique par rapport à ça. C'est juste en face de l'autogare, au niveau, juste derrière la Sony Trave. Ça, même la semaine passée, on a fait un tour parce que la police nous a amené une fille de 17 ans qui est enceinte. Donc, elle a été amenée ici suite à une rafle qu'ils ont eue la nuit, vers 21h. Et malheureusement, ils ont vu qu'elle était enceinte et qu'elle n'a personne. Elle n'a même pas les chaussures. Elle dit que elle vit là-bas. Et le matin, quand on s'est rendu, c'est vrai, elle vit là-bas. Il y avait ses copines qui sont là. Suite à la rafle, donc maintenant, le lendemain, elles ont été amendées par la police. Et deux jours après, elles sont encore revenues sur le même lieu. Et c'est comme l'a dit Hajia, elles fumaient devant nous, alors qu'il y avait l'autorité qui est là. Elles n'ont pas honte, elles n'ont pas froid aux yeux, en tout cas, non. Elles nous regardaient, elles parlaient, elles fumaient la cigarette.
Mais selon vous, si elles n'ont ni honte ni peur des autorités qui sont devant elles, est-ce que c'est parce qu'il n'y a aucune sanction ou bien?
Parce que l'amende là, elles peuvent payer et puis revenir. L'amende d'après nos interrogatoires, c'était 1500 qu'elles ont payé. Donc les 1500 là, elles peuvent l'avoir combien de fois? Parce que c'est un rafle qu'on a eu à faire deux jours après, elles reviennent sur le même lieu. Donc c'est un lieu qui est là et qui est connu par l'État. On a commencé en tout cas à parler avec la police. Ils disent que c'est un lieu, ça, c'est comme la tribune, comme on l'a dit avec la dune. En tout cas, même si on met la police, en tout cas, elles vont revenir. À une seule condition, que la police ou bien l'autorité soit permanente dans ces endroits-là.
Mais aujourd'hui, quel est l'impact de ce phénomène sur les concernés même, et en particulier, et même sur toute la société?
En tout cas, c'est un problème. Parce que quand on dit que voilà une fille qui est... Parce qu'elle est issue d'une famille. Justement. Il y a le père, il y a la mère qui est là. On
ça
dit
ne
que
fait pas l'honneur quand d'une
voilà,
famille.
Qu'en est-il de ses soeurs, de ses petites soeurs ou bien de ses frères? Parce que l'éducation pour elle, c'est déjà raté. Et les autres, on ne peut pas les protéger. Donc, il faut que les parents s'y mettent, en tout cas, pour que ce phénomène-là, en tout cas, même si ça ne soit pas complètement éradiqué, mais en tout cas, que ça soit un phénomène qui va soulager. Soulager la société.
Alors, Rekia Alassane, on dit que les jeunes sont l'avenir de demain. Les jeunes filles seront les mamans de demain. Et si ces jeunes filles s'adonnent dès le bas âge à ces différentes pratiques néfastes, quel sera leur avenir?
Il y a un grand problème. Parce que si tu n'arrives pas à prendre soin de toi-même, comment tu vas prendre soin de quelqu'un? Moi, sur ce plan-là, je veux dire que même 1000 fois qu'on va aller les chercher là-bas, ils vont retourner. Et ils devraient avoir un lien auquel, si ce genre de filles-là,
Un centre de réinsertion ou de récupération.
Mais même si on les rapatrie, on les amène, ou bien on les met au niveau du commissariat, ils vont rencontrer d'autres personnes.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous, Conseil de la jeunesse, vous avez fait le constat sur le terrain de la ville de Tawa? Est-ce que vous avez fait le constat même vous-même?
Effectivement, on a fait le constat. Et sur ce plan-là, on a fait beaucoup de sensibilisation, des débats et même des débats inter- et générationnels.
D'accord. Alors, Madame Abarchi Madania, cette dépravation des mœurs est une réalité chez nos jeunes filles et particulièrement ici à Tawa. Selon vous, quelles peuvent être les conséquences même directes sur ces jeunes filles et la société? Je vous pose la même question que madame.
Parmi les conséquences, on peut citer la déscolarisation. Parce que les jeunes filles qui s'adonnent à cette pratique-là ne vont pas à l'école, ne fréquentent pas l'école. Donc, indépendamment de ça, on peut citer aussi la délinquance juvénile, parce que après la consommation de ces stupéfiants là, elle s'adonne à toutes sortes de délinquances. Donc indépendamment de ça, il y a aussi la dépravation des mœurs. C'est une conséquence de cette consommation des stupéfiants. Il y a aussi il y a aussi la pauvreté. La pauvreté, pourquoi je parle de pauvreté ici? Elles ne peuvent pas s'adonner à une activité génératrice de revenus pour leur permettre de subvenir à leurs besoins aux besoins de leurs parents. Donc ce qui fait que elles sont toujours dans le même circuit. Elles sont toujours dans le même circuit. Deux fois, elles n'arrivent, comme l'exemple qu'on a donné tout à l'heure, on dit que la fille qu'on a amenée n'avait même pas de chaussures. Elle était venue pieds nus. C'est toujours les conséquences de cette pauvreté-là. Parce que si elle était dans une AGR, elle avait une petite AGR, ou si elle était inscrite dans un centre de formation, un centre de réinsertion socio-économique, parce qu'il y en a plusieurs ici à Tawa. Si elle était dans un centre, au sorti de ce centre-là, elle aura une activité qui va l'occuper.
Oui, mais Mme Hadiza disait que ces jeunes filles, même si on les interpelle, l'amende c'est 1500, c'est ça? Elles arrivent à payer ces 1500 et retourner dans leur fief, si je peux le dire.
Oui, mais cet argent-là, c'est un argent mal acquis. Parce que c'est un argent de la prostitution. Elle s'adonne à la prostitution. Ici, l'exemple qu'elle a donné ici, en face de l'autogare. En plein jour, un jour, quand on a informé la police par rapport à ce centre, à ce lieu stratégique-là, donc la police était venue à 7h du matin. Ils étaient encore couchés avec les jeunes garçons. En plein jour, à 7h le matin, ils n'étaient pas encore réveillés. Ils n'étaient pas encore réveillés, donc on les a ramassés. Parce que moi, je me dis que je reviens pour dire la responsabilité est partagée. Même au niveau de l'État, il y a un certain laisser-aller.
Oui.
Il y a un certain laisser-aller. Parce que s'il y a des mesures, s'il y a des sanctions qu'on impose...
Parce que si elles savent que c'est juste pour payer
1500, mais ça ne leur dit rien. Un jour, elles peuvent gagner 1500 combien de fois? Ça veut dire que à cause de ces 1500, donc, elles ne peuvent ni cesser leur activité, ni quitter l'endroit. Ça veut dire qu'elles n'ont pas peur d'aller à la police, parce que si on va à la police, on va juste payer 1500.
Donc à l'État de durcir,
de prendre des dispositions, des sanctions à l'endroit de ces jeunes filles.
Alors, Madame Hadiza, est-ce qu'il existe même des politiques ou bien des mesures pour lutter contre ce phénomène ici à Tawa?
Oui, il y a des mesures, puisqu'il y a le service régional de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. Le service est là, c'est à lui de protéger. Et aussi, il y a les ONG, comme celui de Hagia, qui lutte contre ce genre de violence-là. Ce n'est pas les deux seulement, il y a une pléthorique d'ONG qui lutte. Il y a aussi des partenaires qui appuient. Par exemple, pour la réinsertion de ce jeune-là, il y a une ONG, Gatamatasa, qui le fait. Elle le fait dès qu'il y a des enfants, on l'appelle, des filles mineures, on l'appelle, elles viennent, elles les cherchent, on les réinsère pour apprendre des activités de couture, de cosmétique. En tout cas, il y a pas mal d'activités qu'elles peuvent apprendre. Mais seulement, même s'il y a ces structures-là, je reviens un peu en arrière par rapport à ce que Hajia avait dit, c'est à l'État de durcir le ton. Nous, on s'est dit, au lieu de faire l'amende de 1500, qui on ne sait pas comment justifier ça, on peut les déférer à la prison ou bien chercher quelques endroits pour les mettre. C'est comme si une prison, elles ne vont pas sortir. Leur priver de cette liberté-là. Peut-être qu'elles peuvent changer. Voilà.
Pour le redressement.
Voilà. Comme on le fait, c'était le centre de réinsertion de Dakoro. Maintenant, il n'est plus. Et on a vu. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus. On a vu combien de problèmes qu'il est en train de résoudre et que maintenant, comme il y a l'absence de ce genre de centre-là, les enfants sont là.
Justement, la représentante du Conseil national des jeunes déplore le fait qu'il n'y ait pas ce centre-là ici même à Tawa. Est-ce que vous envisagez, les autorités envisagent vraiment la création de ce centre,
type de centre? Oui, en 2023, il y avait eu, comment dirais-je, une décision que avec les partenaires, ils devront faire un centre de réinsertion sociale comme celui de Dakoro. Mais avec la situation aussi du pays, on sait sur soi pour le moment. Mais en tout cas, il y a la création qui est là.
D'accord. Alors, Rakia Alassane du Conseil national de la jeunesse, Conseil régional autant pour moi de la jeunesse. Aujourd'hui, quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour faire face au phénomène de dépravation de mœurs des jeunes filles ici à Tawa? Quelles sont les stratégies que votre conseil met en place?
Je vais faire un ajout sur ce qu'il a déjà dit. Et donc, même au niveau de la police nationale, et donc, il y avait ces bureaux-là, la brigade bureau de mineurs. Donc, un jour, on a fait une rencontre là avec
les responsables. Oui.
Donc, elle nous a dit que même si ils arrivent à rapatrier ces filles-là, elle les ramène de leur village respectif. Mm-hmm. Donc, c'est comme si ils sont en train de le faciliter le déplacement, quoi. Mm-hmm. Puisqu'ils vont prendre tout ce qu'ils ont pu à chercher. Après quelques jours ou bien quelques semaines, ils vont revenir.
Si je comprends aujourd'hui, il n'y a pas que les jeunes filles de la ville de Tawa, il y a aussi des jeunes filles des villages environnants qui viennent aussi s'ajouter à ces jeunes filles-là.
Ils sont plus nombreuses même que celles de la ville.
Et même si aujourd'hui on les rapatrie chez elles, elles reviennent encore.
Elles reviennent.
Donc c'est déplorable. Alors face à l'ampleur de ce phénomène, quelles sont donc les stratégies que vous avez mises en place ou que vous faites pour lutter contre ce phénomène?
En fait, ce sont des sensibilisations qu'on fait. Ce sont des sensibilisations.
Et à l'endroit de qui?
À l'endroit de ces filles-là et aux parents aussi.
Vous allez à la rencontre de ces jeunes filles-là directement ou bien c'est dans la société, à travers les réseaux sociaux, les médias que vous faites ces sensibilisations?
Oui.
Comment vous arrivez à atteindre ces jeunes filles?
Donc, une fois, on a fait une rencontre avec eux, certaines d'entre elles. Et on fait ça, des débats radio-télévisés, des sketchs pour les sensibiliser.
Madame Abarchi, de votre côté, vous êtes donc la présidente de l'ONG Lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants mineurs. Au niveau de votre ONG, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre ce phénomène?
Donc, au niveau de l'ONG, nous faisons la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants
mineurs. Oui.
Et nous faisons aussi la prévention de ces genres de phénomènes à travers des sensibilisations, à travers des débats radio, donc à travers des visites à domicile même.
Mm-hmm.
Il nous arrive de faire des visites, organiser des visites à domicile quand on voit une fille qui est dans ce genre de pratique et qu'il se trouve qu'on connaît la famille de la jeune fille. On a l'habitude d'aller rencontrer des parents chez eux pour les sensibiliser, pour attirer leur attention.
Et les parents sont conscients?
Parce que des fois, les parents ne sont pas informés de ce qui se passe. La fille sort, tout à l'heure quand les unes et les autres ont parlé, elles ont dit que c'est une pratique qui se fait en plein jour. Ça veut dire que dans la journée, la fille sort, elle passe la journée dehors, la maman ne sait pas là où elle a passé la journée, et elle revient le soir, elle est à la maison, comme si de rien n'était. Donc si on voit ce genre de filles, et il se trouve qu'on connaît ses parents, donc on a l'habitude d'aller trouver les parents pour les informer, les sensibiliser, pour prévenir la consommation de stupéfiants, avant que la fille n'arrive à ce stade.
Mais est-ce que les parents coopèrent lorsque...
Les parents coopèrent absolument, parce qu'un jour, après ça aussi, on fait la dénonciation. Si on voit des cas, on a l'habitude d'aller déclarer à la police et la police intervient. On a l'habitude de référer des enfants ici au service de la protection de l'enfant. Si on voit des cas de dépravation de mineurs, de cas de délinquance juvénile, donc on informe les services compétents. Donc nous faisons même la dénonciation. Quand l'effort, il est fourni par les ONG, il est fourni par les oulémas qui font des prêches, il est fourni par les services compétents, c'est-à-dire la police, la promotion de la femme, la justice, la gendarmerie, donc qui sont dans la protection de l'enfant. Mais je vous dis qu'il y a l'influence des réseaux sociaux. Il y a plusieurs causes à ces phénomènes. Ce qui fait que vraiment, il n'y a que Dieu qui peut. On demande l'aide de Dieu.
D'accord.
Pour parvenir à résoudre vraiment ce phénomène qui dépasse la compétence des parents, la compétence des autorités, la compétence des structures de prise en charge de la jeune enfance.
D'accord. Alors, les responsabilités sont situées. Madame Hadiza, au niveau de votre structure, quels sont les principaux défis auxquels vous êtes confrontée dans la lutte contre la dépravation des mœurs des jeunes filles? ici à Dao.
Ok, par rapport au défi, je reviens un peu à point de d'entamer ce, comment dirais-je, au niveau des défis,
cette
de parler au niveau, voilà, par rapport à la prévention.
Oui, justement.
La prévention, voilà. Parce que il y a, vous n'êtes pas sans savoir, parmi les causes, en tout cas, il y a le mariage précoce et forcé des enfants. Parce que la majorité de ces filles-là, d'après des enquêtes et des sondages, c'est des filles qui ont quitté le village suite à un mariage forcé précoce, ou bien, si on peut le dire, après un infanticide peut-être. En tout cas, elles sont là. Elles sont là, elles sont nombreuses. Et que c'est pas seulement les filles de Tawa qui sont, comment dirais-je, dans ce lot-là. Il faut parler des filles du village environnant qui viennent. Et par rapport aux défis du centre, en tout cas, nous, on essaye, avec le peu de moyens qu'on a, de pouvoir réinsérer. Parce que parfois, il faut faire même le retour d'abord, le retour en famille de ces filles-là, aller auprès des parents. Parce que parfois, les parents ne savent même pas que la fille est venue à Tawa. Pour elle-même, elle est morte. Mm-hmm. Pour d'autres, elle a traversé la frontière. Ils savent. En tout cas, ils ignorent même là où est la fille. Mm-hmm. Parfois, c'est avec le retour en famille qu'ils savent que vraiment leur fille est vivante. Et on les dit que l'éducation, c'est la famille qui doit le faire. C'est pas par la rue ou bien l'État. C'est vrai, l'État appuie. Mais la responsabilité, l'éducation, ça se fait au sein d'une famille. Un enfant doit être éduqué au sein d'une famille.
D'accord.
Et avec deux personnes, le papa et la maman. L'éducation, parce qu'on a compris que quand on dit éducation de la jeune fille, on dit ah, c'est pour la maman.
Oui.
Alors que c'est pas ça. Et parfois c'est ça qui amène ces genres de délinquance juvénile, s'il faut le dire.
Merci bien. Avant de poursuivre, je vous amène à la découverte de Mme Bourayma Salamou, une pionnière dans la lutte contre la dépravation de mœurs dans le département de Gaya. Elle est membre de l'ONG PADEM.
Mme Bourayma Salamou est l'une des femmes engagées dans la sensibilisation des jeunes filles, notamment celles âgées de 15 à 16 ans.
Les jeunes, nous les sensibilisons sous.
Nous sensibilisons les jeunes pour qu'ils prennent conscience de leur existence en tant qu'être humain. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Car tout ce qu'une personne fait dans cette vie, si elle ne connaît pas tout cela et qu'elle n'a pas d'éducation, ça n'a pas de sens. Aussi, nous attirons l'attention des jeunes sur différents aspects de la vie. Nous savons qu'un jeune, au stade de la puberté, s'il n'est pas encadré, il risque de basculer dans la délinquance. Il va falloir donc attirer leur attention pour qu'ils prennent conscience de cela et éviter de tomber dans le piège. Par exemple, une fille qui commence les menstrues, elle doit savoir qu'elle est en train de grandir.
Âgée de 42 ans, Salamatu est native de Damana dans le département de Gaya. Elle a fait ses études du primaire et du secondaire à Zender. Après, elle s'est retrouvée à Gaya où elle a travaillé avec plusieurs structures, où elle s'est engagée à sensibiliser les jeunes filles et leur apprendre différents métiers.
PADEM,
c'est le nom de notre projet. Il a une représentation à Dosso, mais le siège se trouve à Niamey. Nous sommes à la 9e phase de ce projet. Les jeunes viennent d'eux-mêmes. Les parents amènent aussi les enfants. Nous leur apprenons à fabriquer du parfum, le savon liquide, des porte-clés, le tricotage, à faire le gommage et bien d'autres métiers. Toi-même, tu les as trouvés en plein apprentissage. Et tu constates qu'il y a beaucoup de femmes ici. Nous avons jusqu'à 100 apprenants. Ils sont vraiment courageux. Nous constatons qu'ils profitent des enseignements que nous leur donnons. Certaines nous racontent même leur vie d'avant. Par exemple, une des apprenantes m'a expliqué qu'elle a eu une grossesse non désirée en faisant du petit commerce dans la rue. Elle disait qu'elle avait eu honte pour informer ses parents de ce qui lui arrivait. Je l'ai conseillé de dénoncer tout cas de harcèlement auprès des autorités coutumières, car des fois, certains parents ne prêtent pas attention à des situations comme celle-là. Pire encore de nos jours, il y a même des filles qui consomment des stupéfiants. Il faut se méfier de lier des relations d'amitié avec un garçon ou une fille qui s'adonne à cette pratique, car si la consommation des stupéfiants était une bonne chose, nous allons trouver des milliers de parents qui nous ont dévancés dans la pratique.
L'engagement ainsi que les actions de Salamatu sont appréciées par les parents des enfants, car à travers les petits commerces qu'elle leur apprend, plusieurs jeunes filles qui étaient dans des situations de délinquance sont devenues responsables et pratiquent des activités génératrices de revenus.
Nous sommes satisfaits du travail de Salamatu, car elle contribue à recadrer nos jeunes qui sont égarés. Il est très bien de la soutenir. Moi, je suis le chef du quartier Tondikaina. Madame Salamatu est vraiment à saluer. Nous voyons les fruits de son travail. Nous souhaitons que ces jeunes prennent conscience de ce qui est meilleur pour eux. Nos autorités doivent renforcer davantage les dispositions de lutte contre la délinquance.
Madame Bourema Salamatu est mariée et mère de 6 enfants. Elle a pour ambition de poursuivre ses actions de lutte contre la dépravation de mœurs des jeunes filles à travers les sensibilisations et la pratique des petits commerces.
Alors, vous venez d'écouter les propos de Mme Bourema, son engagement dans la lutte contre cette dépravation des mœurs. Un tour de table, quelles sont vos appréciations?
Ok, par rapport à l'appréciation, je dirais qu'on doit encore travailler mmh. aussi par rapport à la sensibilisation. Mmh. Ne pas rester comme ça. La sensibilisation, en tout cas, je vois que c'est le seul moyen mmh. de prévenir ce phénomène-là mmh. qui est dans notre société. Mmh. Parce que ce sont nos enfants, on peut les éduquer. Un enfant, on peut le manipuler comme on le veut, mais dès le bas âge, c'est ça. Mmh. Donc l'éducation doit se faire à la base. Mmh. À la base. Et qu'avec cette sensibilisation, on doit conjuguer nos efforts avec l'État, les acteurs, la société civile. En tout cas, tout le monde doit se mettre la main à la pâte.
D'accord. Merci bien. Alors, Rekia, quel conseil aux jeunes filles de la ville de Tawa aujourd'hui?
Moi, mon conseil au niveau de ces filles, d'essayer. Mm-hmm. D'être autonome, donc d'aller créer leur petite entreprise ou bien quelque chose de, qui va les occuper mm-hmm. au lieu d'aller faire ce genre de choses-là.
D'accord.
Merci. Et je vais ajouter quelques mots.
Oui.
Et je vais dire que de renforcer les sensibilisations.
D'accord.
Les sensibilisations au niveau communal mm-hmm. et départemental aussi. Mm-hmm. Et de mettre un paquet sur le changement de comportement au niveau des
chefs. Merci bien, Rekia. Je termine avec vous, Madame Aparishi Madania. Aujourd'hui, oui. Quel est le conseil que vous pouvez donner aux jeunes filles aujourd'hui qui sont dans ces mauvaises pratiques?
En tout cas, le conseil que je vais donner aux jeunes filles, il s'adresse à toutes les jeunes filles, pas seulement celles qui sont dans ce cas de figure. D'abord, je vais les appeler à étudier, à aller à l'école coranique, à se respecter et à respecter leurs parents. Ne pas prendre de mauvais exemples, donc ne pas suivre les mauvais amis. Donc, de servir de modèle pour les autres filles de la famille, de la ville et au-delà de la région de Tawa.
Et quel appel aussi à toute la société, à l'État?
L'appel que je vais lancer à la société, aux parents d'abord, aux parents des jeunes filles, donc de veiller à l'éducation de leurs filles, veiller au mouvement entrée et sortie de leurs filles, mm-hmm. veiller à la fréquentation, à la qualité des amis de leurs filles. Je demande à l'État de prendre toutes les mesures qui s'imposent mmh. pour sanctionner les filles qui sont dans cette situation.
Merci bien. Donc, ce phénomène de dépravation de mœurs est une réalité ici dans la ville d'Ottawa et non pas que la ville d'Ottawa, toute la région. Donc, la responsabilité est partagée selon les interventions de nos invités. Donc, aux parents d'assurer une bonne éducation à leurs enfants, dans la famille, à l'État aussi de revoir, de durcir même les sanctions pour ces jeunes filles qui sont dans cette pratique. Donc, nous sommes au terme de cette émission. Nous étions en compagnie de Mme Abarchi Madania, présidente ONG Lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants mineurs. Mme Hadiza Maman Idi, la gestionnaire du Centre holistique de prise en charge des survivantes des VBG au Service régional de promotion des femmes et de protection de l'enfant. Rekia Alassane, chargée du genre au Conseil national de la jeunesse, merci à vous d'être venu. La technique est assurée par Mustapha Ayouba. Je suis Nafisa Adam Sirfou à la présentation. Je vous laisse avec notre rubrique Lotti qui sensibilise en humour. Merci donc à vous, chers invités. Merci également à vous qui nous suivez sur nos 52 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Au revoir.
Affairage.
Hapsou.
Toi encore. Regarde la dame là. Comment peut-on s'habiller et sortir ainsi? On dirait qu'elle n'a pas de parents à la maison.
Et des cinq.
Hapsou, tu es sûr ça va? Depuis là, je te parle et au lieu de me répondre, tu comptes. D'ailleurs, qu'est-ce que tu comptes même?
Je compte le nombre de fois que tu juges une personne dans la rue, juste en la voyant. Tu ne fais que ça depuis ce matin. Tu juges. Ça suffit, Mana.
Juger? Je ne juge pas, Wallahi. J'ai dit juste ce que je vois.
D'abord, c'était une femme qui rentrait dans un bar. Et juste pour ça, tu l'as traitée de prostituée.
Toh, si elle n'est pas prostituée, qu'est-ce qu'elle va aller faire dans un bar?
Acheter à manger, par exemple. Il y a des bars qui offrent des très bons menus et qui font des très bonnes bouffes.
Hey, une bonne femme n'entre pas dans un bar et puis c'est tout.
Ensuite, il y a mon collègue que nous venons de rencontrer. Juste parce qu'il porte des locks, tu penses qu'il fume ganja?
Arrête de modifier ce que j'ai dit.
Toi, qu'est-ce que tu as dit?
Moi, j'ai dit que s'il ne fume pas ganja, c'est qu'il est fou. Parce que s'il n'était pas fou, est-ce qu'il allait laisser ses cheveux pousser comme ça?
C'est justement cela qu'on appelle avoir des préjugés, Kadi. Roger, c'est une très bonne personne. Combien de fois je dois te dire qu'elle n'est pas partagé les mêmes valeurs, la même vision ou les mêmes points de vue que la personne ne fait pas d'elle une mauvaise personne. Avoir des préjugés, c'est vraiment très mauvais.
Préjugés quoi? C'est quoi ça encore? Toi en train de parler gros français là toujours.
Kadi, ce n'est pas gros français. Un préjugé, c'est avoir des idées préconçues. C'est faire des suppositions sur une personne, par exemple, sans prendre le temps et le soin de la connaître. En gros, c'est ce que tu fais depuis tout à l'heure.
Hey, moi, je n'ai rien fait de tout ceci. C'est ma nature. Quand je vois une chose, je parle. Pia.
Kadi, tu peux parler autant que tu veux. Le seul souci, c'est de juger. Avoir des préjugés, ça t'empêche de voir la beauté qui se cache en chaque être humain. Imagine si on laissait nos préjugés nous dicter comment percevoir le monde. On passerait à côté de tant de merveilles.
Moi, je fais juste partie de ceux qui se fient à leur première impression.
Première impression qui est souvent très fausse. Tu te rappelles la dernière fois que nous sommes allés au marché? Tu as juste vu une dame qui te regardait et tu as dit qu'elle ressemble à une sorcière, Waimayati, qu'elle voulait te manger avec ses yeux. Et quand elle s'est approchée, tu allais même fuir si je ne t'avais pas retenu. Mais lorsqu'elle s'est présentée, tu as toi-même compris que c'était juste une cousine à ton mari que tu ne connaissais pas encore.
Tout c'est vrai. Je me suis trompée. Mais juste cette fois-ci-là.
Hey, Kadi! Juste cette fois-ci, faut avoir peur de Dieu. Hein. Toi, tu te trompes presque tout le temps. Tiens, la petite soeur de ta voisine Zara, que tu traitais de débauchée, parce que tu la voyais traîner avec ses amis dans le quartier. Tu jurais qu'elle n'allait pas avoir le bac. Elle l'a eu ou pas?
Elle l'a eu, Wallahi.
Et ce n'était pas la seule fois. C'est devenu une habitude pour toi, sans même que tu ne t'en rendes compte.
Wallahi, c'est vrai. Maintenant que tu me parles, je me rends compte à quel point je suis remplie de préjugés. Mais qu'est-ce que je dois faire pour les éviter?
C'est très simple, Kadi. Prends le temps de te remettre en question. Tu dois aussi arrêter de faire des jugements hâtifs. Apprends à connaître les personnes avant de tirer des conclusions. Chaque petite action compte. Si chacun de nous fait un pas vers la compréhension et l'ouverture d'esprit, nous pouvons changer beaucoup de choses.
Wallahi, tu as raison, Hamsou. Je m'y mets tout de suite. C'est juste que parfois, c'est tellement facile de se laisser emporter.
C'est tout à fait normal, Kadi. Personne n'est dit que c'est facile, mais ça en vaut la peine pour ta propre santé mentale.
Hamsou, merci de m'avoir ouvert les yeux sur ces sujets. Dieu te bénisse.